Vous êtes bien sur Radio Orient pour le journal de midi en français, Wallis Glaise. À la une, une nouvelle nuit étouffante et de nouvelles températures records attendues aujourd'hui. Aucune amélioration en vue. Au contraire, la vigilance rouge continue de gagner du terrain. Elle s'étend vers le nord aujourd'hui, au lendemain de la journée la plus chaude jamais enregistrée. La France devient même le pays le plus chaud du monde par rapport au normal. On en parle justement en tout début de journal. Dans le reste de l'actualité, le Congrès américain adopte une résolution symbolique pour demander le retrait des forces américaines contre l'Iran. Et puis enfin, suite de la deuxième journée de la Coupe du Monde, la nuit dernière, la République démocratique du Congo a fini par craquer contre la Colombie. Place maintenant à la troisième journée, le Maroc joue ce soir contre Haïti. On revient sur les enjeux de cette rencontre dans cette édition. Je vous le disais en début des titres, la France a battu son record de température maximale moyenne a été hier annoncé par Météo France. Mardi est officiellement devenue la journée la plus chaude jamais enregistrée dans tout le pays. Le record précédent daté de la canicule 2003. Clara Dubanchet, vous nous éclairez sur ces dernières avancées.
Record battu, même s'il n'est pas de ceux que l'on voulait à tout prix dépasser. Hier, la France a connu sa journée la plus chaude depuis le début des relevés de Météo France en 1947. L'indicateur thermique national, c'est-à-dire la moyenne des températures les plus élevées, relevée sur 30 stations de référence, a enregistré 38,2 degrés, dépassant largement le record de la canicule de 2003 qui était de 37,7 degrés. Donc en quelques chiffres, on parle de 233 records de chaleur recensés, dont 135 records absolus, notamment pour les villes comme Caen, Cherbourg ou encore Rennes, habituellement épargnées par les fortes températures. C'est près de deux tiers des départements de France métropolitaine qui sont placés en alerte rouge canicule. Le journal Le Parisien s'est même entraîné à comparer les températures moyennes atteintes dans les différentes villes de France en juin avec celles des villes les plus suffocantes dans le monde. Par exemple, à Bourges, on atteint les mêmes températures que Las Vegas, ville plongée au cœur du désert américain, et c'est 38 degrés en moyenne. Bordeaux s'est quant à elle mesurée à la capitale irakienne Bagdad, et c'est 43 degrés, ou encore 41 degrés moyens à Paris, comme à Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis. Le thermomètre n'est pourtant pas prêt de redescendre. Aujourd'hui encore, les températures sont exceptionnellement élevées et jusqu'à jeudi inclus, Météo France avertit les Français, il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. On le rappelle donc, des températures extrêmes dans tout le pays encore aujourd'hui. Des températures qui favorisent les incendies. Des feux de forêt sont toujours en cours en Lot-et-Garonne ou encore dans le Maine-et-Loire. Météo France indique ce matin que 35 départements sont en risque élevé de feux de forêt. Justement également des coupures d'électricité dans le Finistère. Le bilan s'alourdit à mesure que la température s'élève depuis le 18 juin, soit en 6 jours à peine, au moins à 40 personnes ont trouvé la mort noyées en France, essentiellement des jeunes, a pointé le Premier ministre Sébastien Lecornu hier. Le chef du gouvernement a déploré un triste fléau à l'Assemblée nationale. Et toujours au sujet de cette canicule, va-t-elle durer jusqu'à la mi-juillet? Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, a annoncé qu'après une petite pause la semaine prochaine, la France pourrait connaître des températures extrêmes jusqu'au 14 juillet. Je vous propose de l'écouter.
On sait que la semaine prochaine, normalement, on devrait connaître une pause relative, mais effectivement, Météo France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous amener jusqu'au 14 juillet.
C'était la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, au micro de nos confrères de France Inter. À présent, un coup de projecteur sur la situation tragique au Liban. Malgré la signature du protocole d'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, la ministre Éléonore Carroix vient de mener une mission inédite dans le pays, conjointement avec ses collègues du Qatar et du Royaume-Uni. Elle a même accordé un entretien exclusif à Radio Orient. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. On l'écoute.
Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est absolument tragique. Le nombre de déplacés, le nombre de personnes qui ont perdu leur maison, qui ne savent pas quand est-ce qu'elles pourront retourner dans leur village, dans leur ville, est extrêmement important. Et je m'attendais évidemment à cela parce que je connaissais les chiffres, je connaissais les bilans, mais de voir toutes ces personnes qui malgré tout gardent espoir et qui surtout sont prêtes à retourner chez elles, c'est quelque chose auquel je m'attendais moins. Je vous donne un exemple très précis. J'ai été visiter plusieurs écoles transformées en abris pour les déplacés. Or, pendant mon séjour, l'accord de paix a été signé. Certaines de ces personnes ont cru que la signature de cet accord signifiait l'arrêt des hostilités et ont décidé de repartir sur le champ chez elles. Et dans la nuit, Israël a très lourdement bombardé le sud du Liban. Et donc ces mêmes personnes qui étaient parties ont fait demi-tour. Donc ce que je veux illustrer par là, c'est la très grande volatilité de la situation, à la fois le grand désespoir de toutes celles et ceux qui sont déplacés, mais leur envie d'aller de l'avant, quoi qu'il en coûte, et malgré cette situation absolument tragique.
La voix des Libanais, à la fois du peuple libanais et de l'exécutif libanais, cette voix est-elle suffisamment écoutée, suffisamment entendue ?
Eh bien, je pense qu'elle doit l'être encore davantage, et c'est d'ailleurs précisément l'objet de ma visite. Pour moi, ce qui est important, c'est que la communauté internationale, de manière générale, mais en particulier en ce qui concerne les négociations qui sont aujourd'hui en cours et les discussions qui sont en cours par rapport à un cessez-le-feu et à la paix entre l'Iran et les États-Unis, prennent en compte la situation du Liban, mais surtout les priorités identifiées par le Liban, par le gouvernement libanais. Et donc, les Libanais sont aujourd'hui aussi en négociation directement avec Israël à Washington. La situation, comme je le disais, évolue. C'est-à-dire qu'on voit que les négociations se font par étapes. Et même après la signature d'un accord ou d'un protocole, eh bien, l'important, c'est évidemment de sa mise en œuvre. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est que des pays comme la France, qui pèsent dans les relations diplomatiques à l'international, ne serait-ce que parce que nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité, parce que nous avons aujourd'hui la présidence du G7, parce que nous avons de nombreuses instances dans lesquelles nous avons un rôle actif, puisse porter justement la voix du Liban.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Éléonore Carrois. L'intégralité même de cette interview exclusive ce soir à 19h sur Radio Orient, émission présentée par François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité, le Sénat américain a adopté hier une résolution pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit face à l'Iran. Il s'agit d'un revers avant tout symbolique pour Donald Trump, puisque le texte n'aura pas force de loi. Un premier cycle des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran s'est achevé lundi en Suisse. L'Iran, de son côté, a répété vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz malgré l'annonce par Washington d'une levée des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre de ces pourparlers pour une fin à la guerre au Moyen-Orient. Enfin, le football, la Coupe du Monde à présent. Donc la République démocratique du Congo la nuit dernière n'a pas créé l'exploit face à la Colombie, défaite 1-0. Cette même Colombie avec ses 6 points et certaine de voir les 16e de finale. Reste à savoir si c'est en tant que première ou deuxième de groupe. La Croatie de son côté s'est rassurée après sa défaite la semaine dernière face à l'Angleterre. Luka Modric qui était donc à sa deuxième sélection cette nuit, victoire 1-0 face au Panama. Ce soir, française à 21h. D'abord Bosnie-Qatar, Suisse-Canada et surtout un match que beaucoup de monde attend, Maroc-Écosse à Boston. Le Maroc vise la première place de sa poule, Salma Dakhlaoui.
Et oui Wallis, le Maroc dispute dans la nuit de mercredi à jeudi face à Haïti son dernier match de la phase de groupe de ce mondial 2026. Une rencontre capitale pour les Lions de l'Atlas, actuellement deuxième du groupe C avec 4 points, à égalité avec le Brésil. En face, Haïti est déjà éliminé après 2 défaites consécutives dans cette phase de groupe. Les Haïtiens joueront toutefois pour l'honneur. Sur le papier, le Maroc part donc avec les faveurs des pronostics. Après un match nul convaincant face à la Seleção, puis une victoire précieuse contre l'Écosse, les Marocains ont leur destin entre leurs mains. Un succès contre Haïti leur assurerait une qualification pour les 16e de finale et pourrait même leur permettre de terminer en tête du groupe, selon le résultat de l'autre rencontre opposant le Brésil à l'Écosse. Présent en conférence de presse à la veille du match, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, Mohamed Wahbi, a insisté sur l'importance de ce rendez-vous et sur la nécessité de rester concentré malgré le statut de favori de son équipe. On l'écoute.
Moi, je veux être premier. Et je veux être premier, et je veux battre Haïti, être premier, passer devant le Brésil. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, l'objectif c'est de gagner le match. Donc on a un véritable objectif, donc il va falloir mettre la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible qui, bien entendu, qui dépend du contexte, de l'adversaire, du fait que ce soit le troisième match. Du fait, Inch'Allah, qu'on a beaucoup de chance d'être déjà qualifié, pas encore, mais on a quand même beaucoup de chance. Donc c'est clair qu'on tient compte de tout ça. Donc il y a des joueurs qui sont bien, ils sont bien physiquement. Donc on pourrait repartir avec la même équipe sans problème.
C'était Mohamed Wahbi, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc.
Et si on faisait un petit peu de football fiction, Salma, en 4/16 de finale, quels seraient les potentiels adversaires des Lions de l'Atlas?
Alors, la première place du groupe offrirait un tirage théoriquement plus abordable lors du prochain tour. Le vainqueur du groupe C affrontera le deuxième du groupe F, où la lutte fait actuellement rage entre les Pays-Bas et le Japon. Et le deuxième du groupe C, lui, devra se mesurer au leader de cette poule. Donc, on peut déjà imaginer une rencontre Maroc-Pays-Bas ou Maroc-Japon, de quoi faire vibrer les supporters dans ces matchs à élimination directe. Quant à un éventuel choc entre le Maroc et la France, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, il reste extrêmement improbable, voire presque fictif. Pour que ce scénario se concrétise, les Lions de l'Atlas devraient s'incliner face à Haïti, tandis que l'Écosse devrait battre le Brésil et la France devrait terminer deuxième, donc perdre face à la Norvège d'Erling Haaland, un scénario qui relève quasiment de la fiction, mais qui offrirait une affiche particulièrement attendue. Une revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, remportée 2-0 par la France. Mais avant d'envisager un tel duel, le Maroc devra d'abord accomplir sa mission, battre Haïti, valider sa qualification et poursuivre son aventure américaine.
Merci beaucoup Salma Darlaoui pour toutes ces précisions. On le rappelle, hein, c'est l'affiche de cette troisième journée de la Coupe du Monde. Maroc-Haïti ce soir à minuit du côté de Boston. Il est midi et 11 minutes. Merci de nous avoir suivis sur Radio Orient. C'était Wallis Glaise et je vous donne rendez-vous à 17h.